Phil PM. La voie est libre.
OK, la chute du mur de Berlin, mon cher Luc.
Oui, Bernard.
Ça a eu un impact incroyable sur la planète, là.
Ah, ben ça a tout changé, hein. Je veux dire, ça, en fait, on considère que la chute du mur de Berlin, beaucoup d'historiens regardent la chose comme cela. La chute du mur de Berlin, c'est la fin d'une guerre qui a commencé en 1914, qui s'est arrêtée en 1918, qui a eu une accalmie avec toutes sortes d'autres petites guerres, qui a repris en 1939, qui s'est officiellement terminée en 1945, qui a été suivie de la guerre froide. Donc, on reconnaît, on s'entend généralement pour dire que la chute du mur de Berlin, c'est la fin de ce cycle guerrier, c'est la fin de la guerre froide. Mais je pense qu'il faut que les gens... faut se souvenir, Bernard, que ceux qui ont 40 ans aujourd'hui avaient 10 ans quand c'est arrivé.
Oui, mais rappelle-nous ce qu'était le mur de Berlin.
Alors, le mur de Berlin, vous savez, en 1945, quand les Alliés, après le débarquement de Normandie, avançaient en direction est, en direction de l'Allemagne, les Russes, eux autres, ou appelons-les les Soviétiques, ou les Russes s'emmenaient de l'autre côté, s'emmenaient vers l'ouest. Et ce sont les Russes qui ont effectivement pris le contrôle de la ville de Berlin, qui était l'objectif ultime. Et, bon, il y avait eu des accords signés à Yalta à peu près 2-3 mois avant. Ça impliquait Winston Churchill, Staline et Roosevelt, où on s'entendait sur comment on allait se diviser l'Europe une fois que la guerre serait terminée, parce qu'on voyait bien que la fin arrivait. Et aux accords de Yalta, on s'est entendu pour dire qu'il y aurait 4 zones d'occupation en Allemagne. Il y aurait donc la zone soviétique, il y aurait une zone française, une zone britannique, puis une zone américaine. Et là, il faut savoir aussi, pour comprendre l'enjeu, que Berlin... Et donc, il y avait une séparation aussi, il y avait un mur, là. C'était pas un mur encore, mais il y avait une séparation entre une Allemagne de l'Est et une Allemagne de l'Ouest, qui ne portait pas encore ce nom-là.
C'est ça, le mur, c'est venu plus tard.
Alors, voilà. Staline a commencé à monter la pression, il voulait sortir les Américains de là et les autres aussi. Et il y a eu le fameux, à un moment donné, il a fait un blocus, parce que c'est ce que j'allais dire tantôt, Berlin était une enclave dans ce qui est maintenant, ce qui était l'Allemagne de l'Est. C'est donc, tu étais capable de couper les accès à Berlin. Alors, à un moment donné, Staline a décidé de tout couper les accès, et les Américains ont répondu en organisant le plus grand pont aérien jamais vu. Pendant à peu près 15 mois de temps, Berlin était alimenté. Il y avait des avions qui décollaient et atterrissaient aux 5 minutes pour amener tout ce qu'il fallait de nourriture, de tout ce qu'il fallait pour faire vivre cette ville. Finalement, les Soviétiques ont reculé. Mais si on continue d'avancer dans le temps, les gens qui vivaient du côté soviétique...
Communiste.
Il n'y avait pas de point de passage, il y avait juste à traverser. Alors, en l'espace de moins qu'une décennie, il y a 4 millions d'Allemands qui sont traversés de l'Est vers l'Ouest. Et à un moment donné, ça rendait la possibilité de construire un pays communiste presque impossible parce que tous les cerveaux, tout ce qu'il y avait d'élite dans la société était parti du côté Ouest. Alors, à ce jour-là, un matin, les gens se sont levés le matin du 13 août 1961 ou 2. Ouh là là, je l'oublie. Je pense que c'est en 62. Et... Ah! Il était en train de construire un mur. Je ne sais pas si tu y as été, Bernard, au moment où il y avait...
Oui, j'y suis allé.
Pendant qu'il y avait un mur ou après?
Oui. Non, pendant.
Moi, je suis allé
juste avant qu'il tombe.
Ouais. Alors, comme tu sais, le mur, là, c'est absolument invraisemblable. Quand tu le voyais, il coupait la ville littéralement en deux. Par exemple, la principale ligne de métro de Berlin a été coupée en deux. Ils ont construit un mur. Ils ont coupé en deux... des communautés,
des édifices.
Tout. Puis là, on tirait à vue sur n'importe qui voulait traverser. Puis bon. Et là, on se retrouve en 1989. Ça brassait déjà dans l'Europe de l'Est, dans l'Empire soviétique. Les Hongrois venaient d'ouvrir les frontières pour laisser sortir les gens s'ils le voulaient. La Pologne faisait la même chose. Et à un moment donné, ça s'est mis à brasser en Allemagne de l'Est. Leipzig, il y a eu d'énormes manifestations, il y en a eu à Dresden, il y en a eu un peu partout. Et à un moment donné, Gorbatchev, à qui l'histoire reconnaîtra son courage, est allé assister à une fête qui était, je ne sais pas si c'était le 25e anniversaire de la création de l'Allemagne de l'Est, et il y avait des manifestants, puis il a profité de l'occasion pour dire à Honecker, qui était un des vrais vieux apparatchiks communistes qui était au pouvoir en Allemagne de l'Est, il l'a pointé du doigt, on l'a vu à la télévision. Il a dit « c'est fini », tout ça. Bon. Et là, en deux temps, trois mouvements, tout ça s'est accéléré et tout à coup, le mur est tombé. Et quand le mur est tombé, toi, t'es assez vieux, il y a beaucoup de nos auditeurs qui le sont pas, mais les gens ne réalisent pas que Écoute, deux semaines avant, on voyait pas ça venir. Je dirais même que 4 jours avant, on voyait pas ça venir. On voyait bien que quelque chose qui brassait, mais laisser tomber le mur de Berlin, ça apparaissait invraisemblable. Puis en plus, il faut aussi se remettre dans une atmosphère où la Berlin-Ouest, qui était contrôlée par les Occidentaux, essentiellement les Américains, et qui était une enclave dans l'Allemagne de l'Est, il l'avait comme transformé. Le véritable Berlin historique était entre les mains des Soviétiques, qui était du côté Est. Du côté Ouest, c'était moins important sur le plan historique. Néanmoins, ils en ont fait une espèce de vitrine ostentatoire de la richesse occidentale, parce que les Allemands de l'Est, dès qu'ils étaient rendus à un troisième étage, ils pouvaient voir ce qui se passait de l'autre côté.
Non,
puis ils pouvaient écouter la télévision. Puis alors, ça a créé une sorte de culture ultra particulière qui a fait que, quand le mur est tombé, ça a été une célébration incroyable. Puis après ça, une espèce de réveil brutal. Moi, Bernard, j'ai eu la chance d'aller voir Berlin à peu près 2-3 semaines avant la chute du mur. Mm-hmm. Donc, je me souviens, on ne savait pas que ça allait tomber. On a tout vu ça, Checkpoint Charlie, toutes ces affaires-là. Mm-hmm. Et puis, j'y suis retourné à peu près 10 jours après la chute du mur de Berlin. Et là, je me dis, j'en revenais pas. Écoute, le mur est encore là, mais il y avait des grues qui en arrachaient des pans entiers. Mm-hmm. Et là, un soir, où j'avais fait un peu la fête avec le consul général du Canada à Berlin, qui s'appelait Gary Smith, qui est à la retraite maintenant. Faites la fête. On avait pris un bon repas bien arrosé. Et puis il faisait beau, c'était en décembre, je pense. Il faisait beau, frais, mais beau. Je dis, garde, on va y aller vers le mur, on va aller voir ce qui se passe, Gary. Let's go. Fait qu'on commence à marcher vers ça, puis on traverse du côté est. Et qu'est-ce qu'on découvre du côté est? Des soldats soviétiques avec des voitures, genre des Lada puis des Trabant, et qui vendaient tout. Ils vendaient leurs gants, ils vendaient les chapeaux, ils vendaient les bottes.
C'était devenu des souvenirs, c'était devenu des objets souvenirs déjà.
Ils vendaient des jumelles pour regarder au loin, ils vendaient toutes sortes de trucs, puis ils vendaient ça à n'importe quel prix. Ils mettaient ça dans le coffre arrière, t'arrivais, puis ouvrais le coffre arrière, puis ils te montraient qu'est-ce que t'aimerais. Alors moi, je regarde ça, je me prends un chapeau de l'armée de l'Allemagne de l'Est, des jumelles, 4-5 trucs, puis là, il y avait des Kalachnikov. J'ai dit, je peux-tu prendre une Kalachnikov? Il dit, pas de problème. Il dit pas de problème, on se parlait en geste puis tout ça. Alors moi, je prends ma Kalachnikov, ça m'a coûté 20$.
OK, là, tu l'as acheté?
L'ai acheté.
T'as acheté une Kalachnikov?
J'ai acheté une Kalachnikov. Alors là, je suis parti à marcher en direction de mon hôtel.
Faut la ramener après.
Mais quand j'ai approché de l'hôtel, Bernard, je me suis fait prendre par des gardes de sécurité de l'hôtel.
C'est sûr.
Ils m'ont sacré
mon espèce d'innocent. Je vais te promener avec une Kalachnikov à Berlin. Il aurait fallu que tu la démontes. Il aurait fallu que tu lui demandes de te la démonter.
Ben, j'ai été
dans
plus loin
sac.
Que ça. C'est que 3 jours plus tard, j'étais à Dresden, la ville qui a été détruite par les bombardiers.
La ville martyre
de l'Allemagne de l'Est. On était, donc, tu sais, le mur venait de tomber, tout changeait, l'atmosphère changeait, mais en même temps, on découvrait la grisaille qui avait été laissée derrière, puis la malpropreté, puis c'était vraiment un pays pourri qui avait été laissé derrière.
Mais Luc, élargissons, OK, il me reste 2 minutes.
Je veux juste y aller vite, c'est parce que là-bas, je me suis acheté une voiture, je me suis acheté une Trabant.
Tu t'es acheté une Trabant?
Oui, mais j'ai jamais été capable de le faire venir ici. Alors, voilà.
Attends. Elle était peut-être encore là-bas?
Je le sais pas. Je l'avais laissé dans un parking à Dresden. T'es pas capable de l'amener.
Oh, Luc!
Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Réunification de
l'Allemagne. C'est la chute du communisme, Luc. Regarde, si on va à l'essentiel, il nous reste 2 minutes. Ouais. Le mur tombe dans les fêtes. C'est la fin du communisme en Europe. On se retrouve 30 ans plus tard. Tous ces pays qui étaient communistes, comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie qui est devenue 2 pays, la Slovaquie puis la République tchèque. C'est des pays qui ont connu une croissance économique extraordinaire.
Incroyable. Tu prends par exemple la richesse per capita de la Pologne par rapport à ce date-là. En 30 ans, ça s'est multiplié par 12.
Incroyable. Avec tous les excès du capitalisme qui viennent avec.
Oui, aussi. Mais clairement, un enrichissement de la population. Cependant, au plan politique, ça ne s'est pas passé aussi bien. On se retrouve aujourd'hui avec une espèce de nostalgie de l'autoritarisme. En Hongrie, par exemple, Orban est tout ce que tu peux avoir de plus autoritaire.
Oui.
En Pologne, il y a des fortes tendances vers ce genre d'autoritarisme aussi. On le retrouve dans d'autres pays de l'Est.
Il y a comme une nostalgie du totalitarisme communiste.
Il y a une nostalgie d'un ordre.
Oui.
D'ailleurs, je voudrais juste terminer en vous disant, je ne sais pas ceux qui l'ont vu ou qui ne l'ont pas vu, mais il y a un extraordinaire film allemand qui n'est disponible qu'en sous-titre, mais qui est fantastique, qui s'appelle « Goodbye, Lenin ». Ça te fait traverser, c'est vraiment très, très bon. Je pense que ça avait gagné un prix à Cannes ou peut-être le Oscar du meilleur film étranger. Vous devriez voir ça. On voit ce que c'était l'Allemagne de l'Est, on voit ce que ça devenait, on voit toute cette période d'effervescence. Une période de bonheur, en fait. C'était une très grande période de bonheur. N'oublions pas qu'Angela Merkel, qui va bientôt mettre fin à sa carrière politique et qui a été chancelière pendant maintenant 12-13 ans, elle vivait en Allemagne de l'Est, elle. Elle a grandi en Allemagne de l'Est, là. Mm-hmm. Et au moment où le mur est tombé, elle vivait à Berlin-Est et elle avait été dans un sauna, prendre un sauna, faisait ça une fois par semaine. Il y a des gens qui ont dit, hey, Sadlet, le mur vient de tomber. Puis elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait tellement pas qu'elle est retournée chez elle. Elle s'est dit, je pense que je vais faire un petit dodo. Ça n'a pas de bon sens.
Si toi, vous voulez savoir un peu ce que c'était ces deux sociétés, la société allemande communiste et la société démocratique capitaliste, il y a sur Netflix une série qui s'appelle The Same Sky. Okay? On partage le même ciel. Mm-hmm. Et donc, c'est l'histoire d'un espion est-allemand et des services secrets est-allemands, donc qui s'infiltrent du côté donc de l'Allemagne de l'Ouest. C'est une série qui est très très bien faite. Je ne sais pas si elle est encore. Je sais qu'ils l'ont remis en ligne à un moment donné.
C'est l'histoire de Marcus. J'oublie le deuxième nom. C'était le grand patron des services de la Stasi, les services de renseignement est-allemands.
Voilà.
Et qui était un super bel homme qui parlait plusieurs langues. Qui avait réussi à infiltrer jusque dans le bureau du chancelier.
Oui, un Roméo, un homme aussi séduisant. Là.
Séduisant, et, brillant, ouais, alors, mais complètement cynique, vendu à l'État est-allemand.
En tout cas, c'est une très belle série.
Les livres de John le Carré, ça inspire beaucoup ce personnage-là aussi.
Oui, voilà, exactement. Il y en a qui disent que c'était l'inspiration pour le personnage de Carla. Voilà. Mais bref, alors c'est donc 30 ans plus tard, ça a été quand même, de façon générale, là, si on veut aller à l'essentiel, plus positif que négatif,
c'est
beaucoup
vrai.
Plus positif beaucoup que
plus,
négatif.
Beaucoup plus positif que négatif.
Maintenant,
et l'Allemagne de l'Ouest a investi 90 milliards de dollars dans les 10 premières années pour mettre à niveau les infrastructures.
Voilà. OK. Hey, on s'arrête parce qu'au retour, on s'est gardé un petit sujet un peu plus léger, là. Comment vous réagissez quand vos collègues veulent vous parler à la chambre de bain, mettons, voilà. Au bureau? Hein?
Ouais,
on va discuter de ça. Il y a un article très, très sérieux là, qui est paru là-dessus. Luc, tu vas nous résumer ça et tu vas me dire, toi, comment tu te comportes quand tu vas à la toilette? Là?
Moi, le premier.
Et
c'est mettons, toi le premier qui va le dire.
Et mettons qu'un collègue veut absolument te faire la jasette. Là. Tu sais, là? Et bon, attends, des fois que c'est malaisant. Dans un instant, après la pause.